Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
Depuis un rêve qu'il avait fait... Il a remarqué des choses étranges dans son appartement. Il a commencé tout simplement à penser que son appartement est hanté.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
A été le théâtre d'une des sagas Twitter les plus spectaculaires, celle de Dear David.
L'illustrateur et blogueur new-yorkais Adam Ellis publie un étrange commentaire sur son compte Twitter.
Il clame que son appartement est hanté par le fantôme d'un enfant décédé qui tente de l'assassiner.
Est-ce que toute cette histoire est bien réelle ou est-ce une supercherie? Suivez-nous alors que l'on décortique l'histoire du fantôme le plus populaire de Twitter. Comment ça va ce soir, Émile Gauthier?
Ça va très bien, Sébastien Lévesque, parce que on va parler de paranormal ce soir. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé souvent en podcast. C'était le sujet de notre épisode de télé dès cette semaine qui a été diffusé à moi et compagnie. On effleure un peu le sujet de cette histoire-là, celle de Dear David dans l'émission documentaire télé. Mais ce soir, on va vraiment se plonger dedans. Donc, une histoire... vous savez, les histoires paranormales, c'est difficile parfois d'avoir des preuves. Ouais. Moi et Seb, on est quand même des gars un peu terre-à-terre, donc on a la difficulté parfois à se laisser emporter par différents scénarios occultes, mais on trouvait qu'en télé, c'était un sujet qui se porte très bien à l'écran.
Oui, absolument, parce que c'est justement un peu comme tu le dis, le paranormal, il faut le voir généralement, ou du moins voir les manifestations pour
en
y croire.
En faire l'expérience.
Oui, c'est ça, c'est quand même assez dur à traduire en radio, puis des vrais cas vécus de paranormal, il y en a quand même très peu. Et même le cas qu'on va vous parler ce soir, on ne sait pas si c'est une histoire vraie ou non.
Exactement. Donc, dans la série télé, on a eu la chance de passer une nuit dans une maison hantée. Ouais. C'était très intéressant avec un chasseur de fantômes, un des gars de Antise Québec. Donc, c'était très intéressant de voir comment il procède. On a eu la chance aussi de rencontrer un de nos mentors, le Christian Page, qui est un peu le parrain du paranormal au Québec. Donc, on avait très hâte de le rencontrer. On sait que les Distordus sont des fans de Christian Page aussi. Donc, on l'a rencontré dans la série télé pour discuter de tout ça. C'était très intéressant. On risque de le recevoir en podcast aussi bientôt.
Ah oui, on lui a lancé l'invitation et il a accepté. Donc, c'est à nous de le relancer. Je suis convaincu que les Distordus vont adorer.
Et on a eu la chance aussi d'analyser le cas de Dear David dans l'épisode de série télé. On va vous parler un peu plus tard un peu de ce qu'on a trouvé ou de ce qu'on n'a pas trouvé finalement. Mais en gros, cette histoire-là, ça se déroule en 2017. Comme on l'a dit dans l'intro, Adam Ellis, c'est un blogueur new-yorkais, un illustrateur aussi, qui pendant plusieurs mois a fait des expériences paranormales dans son appartement. Le fantôme d'un petit garçon qu'il a surnommé Dear David apparaissait dans ses rêves. Même, il a pris des photos la nuit, des choses comme ça, et il est apparu à certains endroits. Moi, j'ai eu la chance, toi aussi, on a vécu ça un peu live, cette saga-là. Il la documentait sur Twitter, donc c'était aussi passionnant que suivre une série télé ou un bon film.
Ah oui, moi, je me souviens,
l'époque que c'est sorti. Puis moi, j'ai toujours cru hein, aux fantômes, aux manifestations, aux esprits. Puis on dirait que j'aimais ça, suivre ça. On dirait que de voir ça documenté jour après jour, je me suis laissé quand même prendre au jeu dans toute cette aventure-là de Dear David. Puis même, vous allez voir, tu sais, les internautes ont aussi fait leurs recherches. Puis
oui.
Il y a peut-être aussi, ça se peut que le fantôme ait des vraies origines, là, en fait, qu'il y a vraiment quelqu'un qui est mort à cet endroit-là.
On va faire le tour de toute cette histoire-là, j'ai bien hâte, mais tout d'abord, on boit une bonne bière. Cette semaine, on boit la Lévisienne, qui est une IPA britannique de la microbrasserie Le Corsaire de Lévis. Donc, quand on va à Lévis, on boit la Lévisienne. Et c'est une bière à 6,2% d'alcool, elle a une robe ambrée, c'est vraiment une IPA qui tire vers le roux, là, oui. Même. Là. Et un houblonnage là, assez relevé, des arômes floraux aussi là, qui complètent là, des saveurs caramélisées. Vraiment, on goûte la céréale, on goûte le grain. Là. Donc, une très bonne bière. Oui. On se l'était fait suggérer quelques fois, donc on s'est dit, let's go, on boit la Corsaire cette semaine. À Montréal, on n'en a pas toujours, hein, by the way. Donc, quand on va à Québec ou à Lévis, c'est le moment de s'en procurer une. Cette bière-là nous vient de Fabien. Fabien qui nous a offert là, cette bière-là via la tournée de bière au distorsionpodcast.com. Donc, si vous voulez encourager le show, c'est une des meilleures façons de le faire. Et puis, nous, ça nous permet de découvrir une bière de différentes régions et de s'abreuver pendant ces périodes d'enregistrement qui sont parfois difficiles.
Oui. On a aussi un shout-out de 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Ellie H, qui est une distordue de France, qui nous dit « J'ai découvert votre podcast grâce au podcast du Bureau des Mystères. » J'en profite pour leur faire un petit shout-out.
Shout-out, les gars.
Et je dois dire que je suis conquise. Déjà, ça me donne l'impression de voyager et d'être à côté d'une partie de ma famille qui vit au Canada.
Eh bien, c'est un plaisir de faire partie de ta famille canadienne, Ellie. Sans plus tarder, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans la saga de Dear David?
Oui, monsieur.
C'est parti. Yeah. Le 7 août 2017, l'illustrateur et blogueur new-yorkais Adam Ellis publie un étrange commentaire sur son compte Twitter. Son compte Twitter, en passant, c'est le A commercial Moby Dickhead, donc en l'honneur du célèbre ouvrage.
Oui.
Donc, ce qu'il écrit, en français, je vous le traduis, « Donc, mon appartement est actuellement hanté par le fantôme d'un enfant décédé et il essaie de me tuer. » Et entre parenthèses, il inscrit « thread », donc un long texte à venir. Adam Ellis est un illustrateur qui a entre autres travaillé pour BuzzFeed, le célèbre média américain qui bat un peu plus de l'aile ces jours-ci.
Oui, beaucoup de mises à pied, hein, ils subissent quand même un peu comme tous les médias de la planète, toujours certains revirements malgré qu'ils ont été très très populaires à une certaine époque.
Oui. Il a aussi écrit un livre là, qui a l'air intéressant, qui se nomme « Le Super Chill Book », qui est un livre illustré là, à tendance un peu humoristique sur comment vivre avec l'anxiété. Donc, je vais surveiller ça. Adam, d'ailleurs, là, il ne se prend pas très au sérieux sur Twitter. Il fait souvent des blagues, il utilise beaucoup l'autodérision. Il va d'abord là, aborder le sujet d'une manière très légère, là, son sujet de fantôme, sans trop de sérieux. Mais il va se rendre compte que les événements qui vont suivre au cours des prochains mois vont le faire passer rapidement de la rigolade à la frayeur. Dans les autres tweets qui suivent le premier, Adam décrit qu'il a été atteint de paralysie du sommeil pendant laquelle, là, plusieurs mois plus tôt, il a vu apparaître dans ses rêves un jeune enfant à la tête déformée qui se balançait sur sa chaise berçante verte située dans le coin de son appartement. Mais avant d'aller plus loin, là, Seb, c'est quoi au juste la paralysie du sommeil?
Oui, la paralysie du sommeil, c'est un trouble du sommeil, ou plus précisément une parasomnie. Selon la classification internationale des troubles du sommeil. Ça se caractérise par le fait que le sujet, sur le point de s'endormir ou de s'éveiller, est tout à fait conscient de son état et il se trouve dans l'incapacité d'effectuer tout mouvement volontaire. À cette sensation d'immobilisation-là, sont couramment associées, bien sûr, des hallucinations auditives, kinesthésiques ou visuelles, même la situation de l'impression d'oppression, là, t'sais, quelqu'un qui t'appuie sur toi, même de présence maléfique ou même d'une mort imminente. Dans le fond, la personne, elle, est dans l'impossibilité d'articuler des sons et de prévenir l'entourage. Donc, ça crée encore plus un sentiment d'anxiété ou de frayeur. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà un peu vécu, Émile.
Non, j'ai jamais vécu ça. Je sais pas, toi, t'as-tu déjà vécu
oui,
ça?
Oui, ça m'est déjà arrivé quelques fois, plus à l'adolescence puis début de l'âge adulte. À certains moments, je me suis réveillé. J'étais conscient que j'étais réveillé, puis j'étais incapable de bouger mes bras et mes jambes et de parler. Mais j'ai pas eu d'hallucination visuelle ou auditive, mais j'ai vraiment senti, puis c'est vrai que ça crée un instant de panique, même si ça dure pas très très longtemps. En tout cas, dans mon cas, ça a pas duré longtemps, mais c'est que t'as l'impression que t'es vraiment paralysé. C'est pour ça que ça s'appelle la paralysie du sommeil, mais avec une conscience. Donc c'est assez capotant, là, sincèrement.
Non, oui, j'avoue, non, j'ai jamais vécu ce genre d'expérience-là.
Puis je sais pas qu'est-ce qui peut t'amener vers ça, parce que ça a complètement disparu, j'en ai jamais eu d'autre. Je reviens à l'explication. Dans le fond, cette sensation de suffocation, c'est un effet secondaire de l'adrénaline, qui est le neurotransmetteur là, qui répond à un besoin soudain d'énergie, là, on le sait là, quand on a de l'adrénaline, et qui accélère justement les contractions de ton corps, les contractions du cœur, pardon. Lors d'une paralysie du sommeil, il est pas rare que les gens croient avoir affaire à des fantômes.
Dans la série de tweets qui suivent, Adam va même illustrer le personnage qu'il voit dans ses rêves là, d'une manière là, bien détaillée. Là. C'est le style un peu cartoon d'Adam, ouais. Mais c'est un petit personnage, un petit enfant avec pas beaucoup de cheveux, mais quand même des cheveux, puis une grosse bosse sur la tête, en fait un creux dans la tête, comme si vraiment sa tête était déformée par le coup là, d'un objet lourd.
Oui, ou comme si on avait coupé un morceau de gâteau dans sa tête.
Oui, ouais. Vu comme ça, là, ouais. Donc c'est quand même assez creepy. Ce jeune garçon, toujours dans son sommeil, se serait levé tranquillement de sa chaise berçante pour marcher là, d'une manière bien glauque vers Adam, couché dans son lit. Comme dans tout bon rêve ou cauchemar, Adam se réveille juste à temps pour ne pas se faire toucher par le jeune fantôme dans sa paralysie du sommeil. Quelques jours plus tard, il explique dans ses tweets qu'il a rêvé d'une jeune fille qu'il a rencontrée à la bibliothèque publique. Cette jeune fille lui aurait dit « Tu as bien vu Dear David, n'est-ce pas ?» Et Adam lui répond « Qui ça ?» Ce à quoi elle lui répond « Dear David, je sais que tu l'as vu. » Donc encore une fois, c'est un rêve qu'il a fait avec cette petite fille dans une bibliothèque. La petite fille va aussi lui expliquer qu'il y a certaines règles à respecter là, pour interagir avec Dear David. La première, il faut toujours lui poser une question en commençant avec les mots « Dear David ». Deuxièmement, on peut lui poser que deux questions par nuit, donc pas plus que deux. Sans oublier, Dear David apparaît seulement sur les coups de minuit, donc une heure précise où il se pointe. Et encore pire, si on n'obéit pas à ces règles, David peut nous tuer. Donc c'est pour ça en fait que Adam, dans son premier tweet, craint pour sa vie, mais d'une manière un peu humoristique, du moins à ce stade-ci. La nuit suivante, Adam revoit encore Dear David dans ses rêves, encore une fois sous les coups de minuit. C'est alors qu'il va lui demander « Dear David, comment es-tu mort ?» David va alors lui répondre en marmonnant « Un accident dans une boutique. » Je sais pas si t'avais tout suivi ces choses-là. Moi, je suivais la saga, mais à l'époque, mais il y avait tellement de tweets puis de choses qui se passaient que j'en ai manqué des bouts à l'époque.
Ah, même chose pour moi, là. J'ai pas tout suivi en temps réel.
Comme je me rappelais pas de toutes ces règles précises.
Non, moi non plus.
Et là, c'est là que Adam va lui demander, mais que s'est-il passé dans la boutique où il a eu un accident? Ce à quoi David va répondre, quelqu'un a poussé une étagère sur ma tête. Adam va lui demander alors, mais qui a poussé la tablette? Ou du moins l'étagère. David ne répond rien. Et c'est alors qu'Adam se rend compte qu'il a posé trois questions au lieu de deux, qu'il a donc désobéi aux règles. Et selon ce que lui a dit sa petite fille, il risque la mort. Donc Adam va se réveiller en sursaut, là, complètement terrifié.
Adam va alors commencer à faire quelques recherches, à regarder s'il n'y aurait pas eu un certain jeune homme du nom de David qui serait décédé à New York en lien avec un accident dans une boutique. Malheureusement, il ne trouve rien là-dessus. Les semaines passent et l'appartement au-dessus du sien se libère. Il saute donc sur l'offre, pour en prendre possession. Il déménage donc juste au-dessus de son appartement d'avant. Après quelques semaines, toujours pas de réapparition de David dans ses rêves, après qu'il lui ait posé les trois questions. Il se dit que le jeune fantôme a sûrement été déstabilisé par son déménagement et qu'il a en quelque sorte perdu sa trace.
Mais est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, les fantômes?
Ouais, c'est ça, je suis pas trop sûr. Puis il me semble qu'ils ont l'air d'avoir des bons GPS pour nous retrouver. C'est alors qu'on arrive aux événements du 7 août 2017, au moment où il a posté son premier tweet à ce propos, car avant ça, Adam avait tout gardé pour lui. Il n'avait jamais parlé de ça publiquement jusqu'à présent, de ses visions pendant son sommeil. il a remarqué que depuis quelque temps, ces chats ont des drôles de comportements. Ils s'assoient près de la porte d'entrée et surveillent sous la porte, comme s'il y avait quelqu'un à l'extérieur. Plus terrifiant encore, lorsque Adam regarde par l'œil magique, le peep-hole, de sa porte d'entrée, il va apercevoir une étrange forme en mouvement dans le couloir de l'immeuble. Il en est terrifié. Et moi, sincèrement, moi aussi, je capoterais là, si je voyais ça à travers l'œil magique. Là.
J'avoue.
Quand il ouvre la lumière du couloir pour aller vérifier s'il n'y a pas quelque chose, il trouve rien. Par contre, ces chats, eux, sont toujours sur le qui-vive puis ont le poil bien relevé. Là. Tu sais, comme on le sait, quand un chat a peur, là, on le voit bien, là, ils ont une genre de chair de poule.
Oui, puis les chats de Adam vont jouer quand même un grand rôle dans l'histoire de Dear David.
Oui.
Vous allez voir, c'est un peu les personnages secondaires de tout ça. Mais faut se dire que moi aussi, j'ai un chat, puis j'en ai déjà eu, puis toi aussi. Mm-hmm. Là. Moi, ça arrive souvent qu'il est stické, là, il regarde en dessous du frigo, il renifle ou en dessous du lave-vaisselle, puis j'ai bien beau y aller avec une lampe de poche, puis regarder, là, il y a rien là, en dessous du lave-vaisselle. Puis il peut passer des heures devant, donc les chats, ils ont des sensibilités différentes des humains, puis parfois ils vont regarder des choses qui sont pas nécessairement en lien avec le paranormal.
Non, que nous on porte pas attention quand même notre oreille, tu sais, entend pas là. Pour nous ça peut être des petites banalités, tu sais, même le bruit de l'électricité dans un fil fait un son et nous on le perçoit pas, mais les animaux peuvent percevoir ça
oui,
aussi.
Même, tu sais, les variations de température intenses, c'est entre autres ce que nous disait Christian Page quand on l'a rencontré. Tu sais, vous savez, quand on regarde, par exemple, sur le capot d'une voiture l'été, quand il fait très chaud, ben le moteur chauffe. Au-dessus du capot, on va voir l'air le osciller. Ouais. On va voir comme un mouvement dans l'air. Ben apparemment que les chats peuvent sentir ces mouvements dans l'air à des températures plus faibles que nous. Donc, ils peuvent voir lorsqu'il y a un courant d'air, ça se peut qu'il y ait une variation de température puis une variation dans les perceptions
oui,
qu'ils
dans ce
ont.
Qu'on voit, là,
exactement.
Oui.
Donc, c'est, je sais pas si les chats sont des bons indicateurs de phénomènes paranormaux.
Non, j'ai jamais vu de chasseurs de fantômes entraîner avec eux comme appareil.
Ils devraient peut-être. C'est justement à ce moment-là là, qu'Adam va écrire son fameux premier tweet là, du 7 août 2017 où il dit avec une petite touche d'ironie « craindre pour sa vie ». Mais tout ça va n'être que le commencement. Dans les jours qui suivent, les 8, 9 et 10 août 2017, Adam va documenter son expérience sur Twitter en prenant beaucoup de photos. 6 nuits en ligne, à minuit, ces deux chats vont se regrouper devant la porte d'entrée en observant continuellement le bas de la porte, comme si quelque chose se trouvait derrière. Un de ces deux chats, un certain Maxwell, va être très à l'affût de ce qui se trouve derrière la porte. Il va être constamment alerte. Adam va prendre des photos à travers l'œil magique de la porte. Encore une fois, c'est difficile de tout distinguer, mais il semble y avoir une genre de forme derrière la rampe d'escalier, mais ça peut être n'importe quoi, là, honnêtement. Là.
Ouais, surtout, tu sais, je veux dire, dans un œil magique, tu sais, s'il y a une fenêtre qui éclairait l'œil, tu sais, l'œil magique au moment
oui,
où tu prenais la photo,
un peu.
C'est ça, il peut avoir plein de perceptions modifiées, justement.
Donc, on dirait qu'il y a une genre de forme derrière, mais là, c'est subtil, là, c'est vraiment subtil, derrière l'étagère, mais ça pourrait être n'importe quoi ou n'importe qui, ça pourrait être le dos d'une personne ou quelque chose comme ça, là, c'est particulier, mais bon, c'est quand même un peu louche. Là, Internet commence à s'enflammer et des milliers de gens s'intéressent à l'histoire hantée de Adam Ellis. Évidemment, le sujet sera dès le début très polarisé. Plusieurs personnes vont remettre en doute les propos et les photos d'Adam. C'est alors que des gens évoquent la possibilité que la dite forme derrière la rampe est peut-être un autre chat perdu qui entre dans l'immeuble.
Ah, ça se peut.
Ou encore un passant qui est dans le couloir de l'immeuble. Vous savez, on peut entrer généralement parfois là, dans les immeubles. Mais par contre, Adam nous apprend qu'il vit dans une vieille maison convertie en duplex. Ah. Donc, c'est deux appartements. Puis, c'est impossible qu'il y ait des passants ou même des chats errants qui entrent dans la maison. C'est pas comme un bloc appartement avec des couloirs,
oui,
c'est
oui.
vraiment une maison. Donc, c'est quand même assez louche qu'il y ait une créature comme ça derrière, comment dire, qui se soit pointée dans le couloir.
Oui, ça doit faire des nuits particulières.
Oui.
Justement, les nuits passent et le comportement des chats demeure toujours le même. Ils se regroupent à minuit devant la porte d'entrée, les yeux rivés vers le bas de la porte. Les internautes vont suggérer à Adam de tracer une ligne de protection avec du sel. On le sait, hein, le sel, c'est toujours un élément anti-fantôme, là, un peu comme la sauge. Ou, D'ailleurs, il y a plusieurs internautes qui vont aussi lui faire remarquer que New York est une ville extrêmement hantée. Ça, c'est quelque chose que j'ignorais, honnêtement. Nous n'avons pas de chiffres à l'appui, mais il semble que, selon ces mêmes internautes, que des milliers d'appartements new-yorkais soient hantés.
Oui, ben c'est une ville qui a du vécu, qui a de l'histoire.
Ben c'est ça, même à Montréal, oui. c'est une ville très hantée, entre autres à cause des cimetières, des différentes colonies amérindiennes qui ont été colonisées ici. Bref, Adam va aussi installer une application de sommeil sur son téléphone pour tenter d'enregistrer les bruits pendant qu'il dort. Je sais pas si vous utilisez ça, là. Moi j'utilise ça justement, puis c'est justement ça détecte quand tu parles. T'entends les sons, ça détecte même si t'es en mode sommeil profond.
Si tu ronfles.
Oui, si tu ronfles aussi, même calcule le temps de ronflement. L'application a enregistré 33 clips sonores, ce qui indique que 33 bruits ambiants ont interrompu le sommeil d'Adam.
On vous les fera pas entendre là, les sons parce que bon il y a plein d'autres choses à couvrir dans cette histoire là mais c'est comme des petits bruits là, de snap là, des petits glitches au début de chaque clip puis honnêtement il y a rien de très extraordinaire là-dedans c'est sûr que c'est dur à expliquer mais en même temps t'es à New York il y a beaucoup c'est une ville qui bouge beaucoup t'es dans un vieil appartement il y a sans doute des murs qui craquent des clous qui bougent qui cassent ou des choses qui se passent à l'extérieur donc c'est dur de prendre ça pour des vraies preuves.
Oui non t'as raison parce que moi j'en utilise une application de sommeil puis souvent j'aime ça réécouter les bruits puis ça capte à peu près n'importe quoi des fois tu fais juste bouger le drap puis ça va faire un bruit tu peux faire de la statique aussi
oui c'est vrai
quand tu bouges quand tu dors donc moi aussi je suis assez sceptique sur les bruits enregistrés par son application. Le 12 août Adam Ellis poste un selfie dans son appartement en indiquant qu'il quitte la ville pour le week-end. Rendu à ce stade-ci, tout ce qu'Adam publie est scruté à la loupe par les internautes. Et là, certains vont apercevoir une étrange forme dans un carreau de la porte derrière lui. Un genre de visage humain, mais très très subtil.
Ouais, on voit un peu, mais là, faut zoomer beaucoup. Là, dans un des carreaux de la porte derrière son selfie, on peut distinguer une genre de forme humaine. Mais on tombe un peu au moment où il commence à avoir vraiment beaucoup de hype autour de cette histoire-là. J'ai l'impression que les internautes voient un peu n'importe quoi dans les photos d'Adam. Mais vous allez voir, ça va devenir de plus en plus étrange tout ça quand même.
Le 14 août, Adam s'achète un appareil pour faire des photos Polaroid. Plus précisément, il s'achète un Fujifilm Instax Mini 9, là, tu sais, les petits appareils bien populaires que les jeunes ont, là, ma fille en a un même, là, pour prendre des photos instantanées de style Polaroid, justement. Évidemment, il va commencer à prendre des photos de son appartement, de la chaise berçante verte où il a vu David pour la première fois, même du couloir où il a aperçu des formes derrière l'œil magique. Mais sur la plupart des photos, il n'y a rien à signaler. Par contre, la photo qu'il a prise de son couloir a développé complètement noir. Ça, je me souviens de ça. Là. Ça m'avait bluffé.
Oui.
Il n'y a aucune texture sur la photo, vraiment du noir, comme s'il y avait eu une erreur d'impression. Son couloir était bien éclairé. Il va même en prendre d'autres, se filmer pendant que la photo est prise et qu'elle se développe sous nos yeux. Toujours rien, complètement noir.
Il va comme utiliser justement le Polaroid vu qu'il n'y a comme pas de moyen de le truquer live.
C'est ça, exact. Moi, je dois avouer que quand je voyais ça, moi, ça, j'y croyais, là. On dirait que moi, ça, pour moi, c'était comme une preuve que ça pouvait être crédible, en fait, ce qui amenait comme preuve.
Oui. J'ai l'impression que c'est pas impossible à truquer quand même. Dans le sens que, est-ce qu'il peut prendre, est-ce qu'il peut mettre son doigt devant la lentille en développant la photo, puis les deux photos de son couloir parce qu'il a posté une photo de avant-après, là, tu sais, une photo où vraiment sur son voix, son couloir est éclairé, puis sur l'autre, le couloir est pas éclairé.
Ouais.
Mais ça demeure quand même la photo d'un Polaroid. Donc, c'est une photo digitale, tu sais, il nous a pas envoyé le Polaroid. Donc, il y a quand même moyen de mettre du noir sur la photo de la photo. T'sais.
Oui. C'est pas live. Pas si vous me suivez, là, mais... Ben oui, c'est pas. T'sais, nous, on voit une capture vidéo. T'sais, tout ça peut être manipulé après.
Oui, là, c'est ça. Les internautes vont analyser, là, je dirais même over-analyser là, les photos d'Adam qui sont, avouons-le, toujours un peu de piètre qualité. Là. Toutefois, ils vont y voir certaines choses troublantes en jouant avec les contrastes là, au moyen de logiciels d'édition. Plusieurs analyses montrent des silhouettes dans le couloir, mais rien de bien concluant. On a vu toutes sortes de photos. Là. Il y a eu vraiment beaucoup de retouches photos faites là-dessus. C'est dur de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a été trop manipulé. Une photo, par contre, le présente un élément assez douteux, un genre de visage qui ressemble un peu à l'illustration qu'Adam avait réalisée là, de David au début de la saga. Donc, c'est une photo prise de son couloir, mais il y a comme une shape un peu verte, là, qu'on oui. dirait un visage qui crie là, dans cette noirceur-là. Oui. Mais c'est très, très subtil quand même.
Oui, il faut avoir de l'imagination, là.
Adam va alors faire ce que plusieurs internautes lui ont suggéré, faire brûler de la sauge dans son appartement, étant donné que ça éloigne les mauvais esprits selon la croyance. Adam va rêver de nouveau à David là, à quelques reprises. Lors d'un rêve, dans les jours suivants, là, David... je le reprends. Dans les jours suivants, Adam va rêver à nouveau à David là, à quelques reprises. Lors d'un rêve, David était assis dans l'appartement d'Adam qui était rempli de fumée. Dans un autre rêve, David tirait Adam par les bras là, sur le plancher d'un entrepôt. Ça, c'est étrange parce que Adam va se réveiller le lendemain avec des marques rouges au poignet.
Ouais.
Ce qui correspondrait à quelqu'un qui lui tient les poignets très fermement pour le traîner au sol. Vers la fin du mois d'août 2017, Adam poste quelques mises à jour. Ses chats se réunissent toujours au pied de la porte, mais maintenant vers 22 heures. Donc quelques heures avant leur habitude précédente.
Je sais pas s'il y a un peu de décalage horaire.
Ouais, hein. Mis à part cela, Adam affirme être toujours terrifié car depuis quelques jours, il reçoit d'étranges appels téléphoniques de numéros masqués plusieurs fois par jour. Ce qui est le plus étrange, c'est que généralement, lorsqu'on répond à ces genres de robocalls, il y a un message automatique qui se déclenche lorsqu'on décroche. Mais ici, Adam entendait un genre de souffle, une respiration, là, et après une minute, il a entendu une petite voix dire « Hello » à la fin. Déjà, là, qu'il était bien effrayé, Adam ne pourra pas dormir cette nuit-là en promettant aux internautes de les tenir informés. Donc, tu sais, les numéros masqués, c'est sûr que, tu sais... Quand t'es rendu au stade où vraiment ton histoire Twitter rejoint des milliers de gens comme ça, puis se retrouve même sur les blogs, puis dans les journaux, ça se peut qu'il y ait des gens qui te jouent des tours.
Oui, oui, absolument. Moi, je crois beaucoup à cette théorie-là là, pour ce qui arrive là, en ce moment. Là.
Ben oui, parce que les numéros masqués, même moi, je reçois souvent des appels de numéros masqués, puis je réponds, puis des fois, je suis pas sûr que c'est en lien... avec le fait que je suis un podcasteur qui s'intéresse à des histoires étranges.
Non, mais qui sait? Adam continue à travailler, bien évidemment. Il poursuit sa vie. Il est activement en préparation d'un voyage au Japon. Pour cela, il achète une pet cam pour surveiller ses chats pendant son absence, voir s'ils vont pas avoir des drôles de comportements. Il va tester le système pendant un week-end à l'extérieur de la ville. Avec ce système-là, les caméras enregistrent du mouvement et peuvent envoyer des extraits vidéo sur nos téléphones intelligents. Dans une des vidéos capturées par le système, on y voit la fameuse chaise berçante verte là, bouger dans le coin de la pièce toute seule. Ça, c'est assez freakant. Là.
Oui, on l'a vu beaucoup, cette vidéo-là. Là. Ça doit être assez spécial de recevoir une vidéo comme ça par ton système de surveillance d'animaux.
Ah non, moi, ça me ferait peur. Là. À une autre prise, on y voit ses chats s'agiter autour de quelque chose d'invisible. Son chat Maxwell peut passer de nombreuses minutes sur ses pattes arrière en tentant de chasser un moustique qui est invisible. Assez bizarre. On y voit aussi un autre objet tomber de sa bibliothèque. Et sur une des vidéos, la plus effrayante, on y voit un gros ver de couleur verte là, qui se glisse toute seule sur sa table de salon. Ça devient vraiment étrange.
Oui, cette vidéo-là, avec le verre qui glisse, mais tu sais, il n'y a rien dans tout ça. C'est assez freakant de vivre tout ça. J'avoue que si moi je le vivrais, moi aussi je capoterais un peu, là, j'aurais vraiment peur. Mais quand on regarde ça avec du recul, il n'y a rien là-dedans non plus qui est complètement inexplicable.
Non,
exact. Tu sais, encore une fois, t'es dans une vieille maison new-yorkaise, ça se peut qu'il y ait un camion qui passe dans la rue, qui fasse la vibration, qui fasse bouger la chaise, la vieille chaise berçante, même tomber des objets de son étagère, de sa bibliothèque. Pour le verre sur la table, moi, j'avoue que c'est celui-là qui m'a le plus surpris. Par contre, il y a quelqu'un sur Twitter qui soulevait le fait que, tu sais, quand on met un verre sur un verre avec un liquide dedans sur une table, mais il y a de la condensation qui se forme, puis il y a de l'eau qui se forme, puis il peut y avoir une genre de flaque d'eau qui se forme sur la table, qui fait glisser le verre le moindrement si il y a un changement de gravitationnel.
Oui,
t'sais.
Oui.
Donc, c'est une hypothèse. Mais là, j'ai pas assez d'informations sur le verre en question pour te dire s'il y avait un liquide dedans, ça fait combien de temps qu'il était là. Mais ça aussi, serait potentiellement explicable.
Non, non, c'est vrai, parce que les maisons de l'époque non plus, mais même nos maisons sont pas tous droites, les planchers travaillent.
Oui.
Tout ça peut être expliqué, là. À un autre moment donné, au cours des jours suivants, c'est un petit cactus qui tombe de son étagère et tout est filmé encore une fois sur vidéo. Vraiment, là, les objets bougent beaucoup en l'absence d'Adam. C'est ça qui est drôle quand même, hein, que les objets bougent quand il n'est pas là, mais quand il est là, il y a moins de choses qui arrivent, disons. Il y a aussi une histoire d'entrepôt près de chez Adam où tout aurait disparu et réapparu en quelques jours. Mais cela semble vraiment s'écarter de l'histoire principale. Tu sais, c'est...
Parce qu'on dirait que rendu là, Adam commence à penser que tout autour de lui, tout ce qui est anormal est lié à son histoire de fantôme. Puis dans ce cas-ci, il semblait avoir un entrepôt à côté de sa maison où il réparait des petits véhicules ou même des chariots d'épicerie.
Okay.
Et puis à un certain moment donné, tout était vide. Et puis, ça, il a trouvé ça louche. Puis, à un certain moment donné, tout est réapparu. À un autre moment donné, il y avait un corbillard qui était seul dans l'entrepôt. Puis, lui faisait le lien aussi entre le fait qu'il avait rêvé à David qu'il tirait sur le plancher de l'entrepôt.
Oui, oui.
Mais je vois pas en quoi c'est tant que ça en lien avec le fantôme qui le hante.
Non, exact. Là. À moins que la boutique était située dans l'entrepôt, à l'endroit de l'entrepôt à l'époque. Bref. Adam va continuer de faire des rêves bizarres et il va observer David partout où il va. Parfois dans un container à poubelle et même au Japon où il se rend le 5 octobre. Pendant son voyage, il va plutôt être silencieux sur Twitter. Par contre, lors de son dernier jour, il va tomber sur une étrange statue de l'artiste Takeo Yamoshi à Sapporo, la ville du même nom que la bière, où Dear David semble y apparaître telle une figure prophétique. Et c'est vrai que quand on regarde la photo de la statue, il y a un des enfants dans les genres de mains d'une vierge là, qui ressemble à Dear David.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs petits personnages, des petits personnages un peu très neutres, là, avec des petits yeux ronds, un peu perdus. Mais en même temps, c'est un style artistique, hein, les têtes déformées, tout ça. Si vous, les gens qui viennent peut-être du bas du fleuve, se rappellent que dans le coin de Métis-sur-Mer, là, peut-être même, est-ce que c'est Sainte-Luce, où il y a des personnages dans l'eau. En fait, il y a des statues. Il y a un artiste qui a fait vraiment plusieurs statues de pierre. Je crois que c'est à la galerie Marcel Gagnon qui sortent du fleuve. En tout cas, c'est magnifique, mais c'est un peu dans le même style des statues japonaises qu'on voit, là, des personnages très, très neutres avec des gros yeux ronds un peu perdus. Je pourrais retrouver des Dear David à ce même endroit-là. Là. À son retour du Japon, les choses vont se calmer un peu. À quelques reprises, Adam va avoir des problèmes électriques dans son appartement, mais sans plus. Il va commencer à entendre des bruits de scratch, là, des graffignements de l'autre côté de sa porte d'entrée. C'est la première fois qu'il est confronté à des signaux strictement auditifs. Il va prendre quelques photos à travers son œil magique, dont certains internautes vont y voir une image d'enfant, mais encore une fois, c'est très très subtil. Le 25 octobre, alors qu'il va se prendre une bière dans son réfrigérateur, Adam fige de terreur en voyant un petit personnage l'observer depuis le toit du building d'en face qui donne sur son appartement. Lorsqu'il augmente la luminosité de la photo, on y voit clairement cette fois-ci là, un petit personnage derrière la fenêtre. Avec un ami, il va faire un genre de rituel de purification dans son appartement pour éloigner toute force hostile. Donc, de ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un building juste en face de chez Adam dont le toit est à peu près à la même hauteur que son nouvel appartement. C'est là qu'il aurait vu le petit personnage à l'extérieur. Okay. C'est assez freakant. Au début novembre, un petit peu plus tard, Adam vit un événement encore plus inusité qu'auparavant. Il rêve encore une fois à David qui se berce dans la chaise berçante, mais cette fois-ci, il est en mesure, dans son rêve, de prendre des photos avec son téléphone. Quand il se réveille le lendemain, il constate qu'il a pris des photos dans la vraie vie. Et ça, c'est assez bizarre. Ouais. Dans une de ses photos, quand il augmente la luminosité, on y voit clairement David, le même petit personnage, assis sur la chaise devant Adam. Donc, c'est vraiment, vraiment weird. Mais est-ce que c'est possible, dans un contexte de paralysie du sommeil, de prendre des photos dans la vraie vie?
C'est bizarre, parce que, tu sais, la paralysie du sommeil, techniquement, t'es pas supposé d'être en mesure de bouger, donc... Tes muscles sont comme paralysés, ouais. Justement. Donc, est-ce que c'est une forme de somnambulisme?
Oui, c'est vrai. Ça fait presque plus penser à du somnambulisme rendu là.
Plus que de la paralysie, j'ai l'impression.
Au cours des semaines suivantes, on se rappelle qu'on est en fin novembre. Ça fait des mois qu'Adam vit dans cette situation-là. Adam va entendre des drôles de bruits provenant d'un grenier au-dessus de sa chambre. Un grenier qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Parfois, ces bruits sont extrêmes, comme si là, une boule de bowling tombait au-dessus de lui, parfois là, 15 fois de suite.
Ça doit être assez paniquant.
Oui, juste au-dessus de sa chambre, au-dessus de son lit. Là, donc, assez paniquant, comme tu dis. Toutefois, pour s'y rendre dans ce grenier-là, là, on doit ouvrir une genre de trappe qui est située là, très haut au plafond du couloir, même au-dessus des escaliers. Donc, vraiment difficile à atteindre, à moins que tu aies un escabeau professionnel, à moins que tu sois un professionnel de la construction ou un peintre ou quelque chose comme ça. C'est pas évident. Puis, il prend une photo de cette trappe-là, puis on voit un peu comme, tu sais, des graffignements de doigts ou de mains, comme si quelqu'un avait essayé d'y entrer, mais c'est vraiment haut, là, donc c'est pas évident, là, même pour un fantôme, de s'y rendre. Là, c'est assez spécial. Par contre, Adam, il va se commander là, un genre de bâton télescopique là, pour tenter d'ouvrir la trappe. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le bâton puis il va pousser là, un peu sur la trappe. Il peut pas évidemment s'y rendre, mais il peut au moins shaker un petit peu le truc. Puis lorsqu'il va le faire, là, il y a un objet qui va tomber du grenier. C'est un vieux soulier d'enfant en cuir. Oh. Comme si, là, vraiment, c'est un soulier qui datait du début du siècle même. Là, très poussiéreux, très sale, de taille pour enfants. Donc, assez étrange. On dirait que tout colle ensemble dans son scénario de fantôme.
Oui. En novembre 2017, Adam a maintenant plus de 500 000 abonnés Twitter. Toute cette histoire-là lui a permis d'acquérir une notoriété publique importante. Il y a des milliers de gens de partout dans le monde qui suivent la saga, sans oublier, bien sûr, là, les journaux à potins, les blogs, les nouvelles Internet, et même les grandes entreprises de presse sérieuses ont fait un article sur le sujet. Là. Je vois jusqu'à quel point que ça a eu de l'écho partout et que ça a un petit peu fasciné tout le monde. Là.
Oui.
C'est assez impressionnant.
C'était le phénomène de l'automne 2017.
Oui, c'est vrai. Il n'y avait comme jamais eu d'histoire de fantôme de Twitter. Par ailleurs, il y a certains internautes qui ont fait des recherches qui ont même découvert un jeune enfant décédé qui pourrait être justement le fameux jeune David. Il semblerait qu'un certain Lord Fauntleroy, ça c'est le nom qu'on lui a attribué par le public parce qu'il n'y a pas de vrai nom.
Il n'a jamais été identifié.
C'est ça, exact. Il serait décédé, lui, entre l'âge de 5 et 7 ans en 1921 après avoir reçu un coup sur la tête. Je vous rappelle, Dear David, là, David, on voit qu'il y a comme une bosse, comme s'il avait justement mangé un coup sur la tête. Il aurait été retrouvé, cet enfant-là, dans un étang. Par contre, l'autopsie a confirmé qu'il était bien mort avant la noyade. Il portait le même type de chaussures que Adam. Il portait le même type de chaussures que Adam a vu tomber de son grenier. Donc, selon ses vêtements, il aurait facilement pu appartenir à une famille de bourgeois new-yorkais. Mais qui sait, là, on veut pas trop le savoir, mais c'est...
Ça fait du sens un peu.
Oui, quand même, là, avec ce qui arrive, là, effectivement.
Parce que même lorsqu'on regarde les photos du fameux Dear David, lorsqu'on le voit, le petit garçon sur les photos que Adam prend, il semble toujours avoir une genre de petite chemise bien boutonnée. Il semble quand même bien habillé. Donc, ça se pourrait qu'à l'origine, en fait, le lien que les internautes ont fait n'est pas si fou que ça, je pense.
Non,
se pourrait qu'un petit garçon comme ça provienne de New York, surtout qu'il n'a pas été identifié dans cette région-là. Puis, encore une fois, c'est... C'est anecdotique, hein, mais il s'est retrouvé, le petit garçon, dans le comté de Waukesha,
au Wisconsin. Toujours là.
Donc, le même comté où, je crois, ben, il y a eu l'histoire du Slenderman.
Oui.
Il y a eu l'histoire de Dee Dee et Gypsy Blanchard aussi dans ce comté-là. Donc, il se passe des choses assez étranges.
C'est louche dans ce coin-là.
On dirait.
On déménagera pas là. Au fil des semaines suivantes, au début décembre 2017, Adam va prendre sans doute les photos les plus troublantes et les plus controversées du fantôme. Selon son fil Twitter, il se réveille un matin sentant qu'il a été surveillé toute la nuit. Il décide alors d'installer une application sur son téléphone qui prend des photos à chaque 60 secondes. Ce qu'il va retrouver le lendemain est assez perturbant. On va vous mettre les photos sur le site web de Dear David, mais on va vous les décrire un peu tout de même.
Mm-hmm.
Dans la première photo, on voit David, en fait, ben on voit Adam qui dort dans son lit. La photo est vraiment prise comme un angle, comme si elle avait été installée dans le coin de la chambre. Et dans le coin, dans la diagonale, au bout du lit, on voit David qui est bien debout, le crâne, puis justement le linge que tu décris, là, ses beaux petits vêtements, ses pantalons, et Adam dort. Ensuite, une seconde photo, parce que c'est des photos qu'il prend à chaque minute, une seconde photo, là, on voit Adam, il dort toujours dans son lit, mais David est comme... Il est comme devenu une poupée morte, on dirait. Il est comme accroupi ou il est comme mou.
Il est comme s'il s'était effondré sur la chaise dans le coin de la pièce. C'est assez bizarre.
Oui, quasiment comme s'il avait été dessoufflé. Ça, c'est cette photo-là est un peu troublante.
Puis il y a une des dernières photos qui a été prise, parce qu'il faut dire que la plupart des photos que Adam a prises pendant cette nuit-là, il y a rien à signaler, là, il y a absolument rien. Là. Mais il y en a quand même quelques-unes qui sont sorties, 5-6 environ, je dirais.
Mm-hmm.
Puis une des dernières, vraiment, là, on voit David est carrément sur le lit d'Adam. Donc il est debout sur le lit et il observe Adam là, à quelques centimètres de son visage. Là. Ça, j'avoue que c'est assez freakant là, quand tu vois ça le lendemain matin. Là.
Ah oui, tu dois te demander pourquoi tu t'en es pas rendu compte. Tu sais, tu devais dormir assez profondément.
Là. Oui, il y a plusieurs photos aussi. Où, ça aussi, c'est creepy. On voit David qui est dans le milieu de la pièce, puis il regarde comme au plafond ou vers le grenier.
Oui, oui.
Il y a plusieurs photos. On se rappelle que l'appareil prend des photos à chaque 60 secondes. Donc, s'il y a plusieurs photos avec David qui regarde au plafond, c'est qu'il est resté là plusieurs minutes.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas qu'est-ce que ça signifie, mais c'est comme s'il avait observé le plafond là où Adam entendait les mm-hmm. bruits pendant plusieurs minutes.
Oui, parce qu'on a tout le temps... C'est drôle parce que dans les phénomènes comme ça ou même dans les films d'horreur, on a toujours l'impression que les fantômes, ils habitent dans une pièce à quelque part dans la maison puis qu'ils mm-hmm. se retrouvent toujours là. Là, on dirait que là, justement, ça me dit, ben, peut-être que justement, lui, il habite, entre guillemets, dans le grenier.
Oui.
Mais je trouve ça toujours bizarre de leur donner un lieu physique pour des fantômes, tu sais, parce que techniquement, ils vivent pas physiquement, là, tu sais.
Ouais.
Ça, je trouve ça toujours étrange, mais où qu'il y a eu un traumatisme à cet endroit,
le grenier,
oui,
ouais.
Dans le grenier, là, c'est vrai que c'est étrange.
Dans la dernière photo qui a été prise, on voit la tête, là, même les cheveux de David, comme si vraiment c'était un gros plan d'un coin de sa tête avec les cheveux. Puis il y a une internaute qui a additionné toutes les clichés qui ont été prises, mm-hmm. puis elle en a fait un genre de gif animé.
Ouais.
Puis ça, on remarque que c'est comme si David bougeait la caméra à la fin, parce que l'angle de la caméra change lorsqu'on le voit en action, en mouvement dans un gif. C'est assez particulier, mais est-ce que David, justement, ce fantôme des années 20, aurait bougé le téléphone qu'il savait, qu'il le filmait. Ça devient un peu de la science-fiction en dessous.
Ouais, non, c'est ça. Là, on dirait que cet élément-là, je trouvais ça brillant de la part de l'internaute d'avoir fait ça, parce que quand on voit les photos séparées, on porte moins attention à l'angle.
Mm-hmm.
Puis c'est vrai qu'en faisant ça, fait que c'est... Là, on dirait que est-ce que c'est une mise en scène qui est un peu mal faite finalement, là, tu sais, pour essayer de nous faire croire tout ça. Jusqu'à présent, il s'agissait de la première fois que nous avions des photos bien concrètes de David. Les autres fois, c'était toujours des dessins ou c'était
très
flou. Là. Maintenant, ces photos sèment la controverse et les internautes sont divisés, un peu comme nous. Là. Il y a plusieurs qui croient que tout ça, ce n'est qu'une supercherie là, et non la réalité.
Oui, c'est ces photos-là qui vont faire en sorte vraiment que la controverse va être semée dans les communautés Internet. Parce que là, c'est la première fois qu'on voit des photos. Jusqu'à date, c'était beaucoup des anecdotes, des choses comme ça. On aimait suivre l'histoire. Oui. Mais là, maintenant qu'on a des photos, là, donc quelque chose de supposément réel, ben c'est sûr qu'on est critique.
Oui, ben plus. Quand on reste dans le fantasme, on dirait que tu sais, ça reste toujours... plus stimulant ou plus intriguant. Mais là, quand la preuve est concrète, puis en même temps, là, on dirait que c'est là que ça t'amène des arguments pour le juger encore plus que quand tu restes vraiment juste dans l'anecdotique.
Adam part dans le Montana pour les vacances de Noël là, en décembre 2017. Il habite une maison près d'une forêt là, qui est très isolée. Alors que les premiers jours se passent bien, après quelque temps, il sent que David le hante toujours, là, même ailleurs que dans son appartement, là, à des milliers de kilomètres de New York. Il va remarquer d'étranges pas dans la neige qui mènent de la forêt jusqu'à la maison, des pas d'enfants.
Oh.
Il va encore enregistrer une photo nocturne de David, et là, c'est vraiment étrange, qui dort collé sur lui dans son lit.
Ouais.
Donc, on voit vraiment David avec ses petites mains qui, comme s'il collait Adam dans son sommeil.
Ouais.
Et je reviens un peu sur les pas dans la neige. Adam disait qu'un certain soir, il était dans la salle de bain de la maison puis qu'il avait senti une présence à l'extérieur. Donc, il est sorti puis il a pris plusieurs photos. Et le lendemain matin, il est allé voir. À première vue, il avait pas vu de traces dans la neige lorsqu'il avait pris des photos. Mais lorsqu'il est retrouvé le lendemain matin, c'est là qu'il a vu les pas d'enfant.
Okay.
Mais c'est un peu surréel. Les pas commencent comme tout près d'un ravin, mais il n'y en a pas l'autre bord du ravin, comme si l'enfant avait... apparu là, qui avait déposé par une soucoupe volante ou catapulté à cet endroit précis. Là. Puis c'est comme s'il marchait jusqu'à la maison. Puis j'ai pas vu sur les photos de pas de retour. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est vraiment weird. Mais là, encore pire, là, après cet épisode, pendant le temps des fêtes, dans le Montana, Adam va avoir d'autres problèmes. Là. Le fantôme de Dear David, apparemment, aurait même hanté son compte Instagram. Et là, ça, je savais pas que c'était possible. C'est la première fois que j'entends parler d'une histoire comme celle-là.
Oui, non, c'est ça.
Donc, toujours dans le temps des fêtes, Adam va prendre le brunch avec une de ses amies. Et puis, ils vont publier des selfies au restaurant, dont une qui, justement, bon, ils sont en train de manger leur brunch, ils sourient, ils prennent un selfie, ils publient ça sur Instagram. Et puis, c'est les internautes qui vont le remarquer parce que lui n'avait pas du tout remarqué qu'il avait publié ça.
Okay.
Mais sur une autre story qui est juste après, c'est un peu comme la même photo, mais comme si elle avait été vraiment distorsionnée, là... un peu même dans les couleurs, c'est comme s'il y avait vraiment des glitches dans la photo, et on croit voir même une genre de surimpression de David là, ou d'une créature fantomesque à quelque part dans la photo. Donc c'est vraiment bizarre. Par contre, ce qui va arriver, encore une fois, les internautes vont analyser tout ce que Adam publie, et puis il y a des gens qui vont se rendre compte que il existe une application pour faire exactement ce type d'effet là. Et puis il y a des gens qui ont même repassé la photo originale, puis que c'est presque le même canevas, là, le même template qui est utilisé. Donc, ça regarde pas bien. Là. C'est presque comme si ça avait été complètement falsifié. Là. C'est vraiment bizarre.
Mais quand tu pousses, tu sais, des fois, on dirait que quand tu pousses le truc trop loin, c'est là que ça perd sa crédibilité en voulant étirer la sauce, je trouve. Tu sais, des comptes Instagram hantés. Là, c'est, en tout cas.
Ouais. Après tout ça, Adam va changer complètement là, son style de tweet, même de vidéo, d'une manière étrange. Il va encore poster des vidéos de ses chats là, qui agissent étrangement devant sa porte d'entrée. Par contre, il va vraiment changer son style. Adam, sur Twitter, était très humoristique. Il pouvait souvent utiliser, par exemple, des majuscules, beaucoup de ponctuation, des petites blagues, des choses comme ça. Mais là, les vidéos qu'il va publier vont être publiées sans même aucune description. Et puis, c'est comme si la caméra était vraiment, avant, était positionnée dans le coin le coin supérieur de la chambre. Donc, on avait un portrait de toute la chambre. Mais là, c'est des angles de caméra vraiment étranges, comme si la caméra était tombée par terre. Donc, c'est dans un coin par terre, un peu derrière le canapé. Puis, on voit le chat au loin là, qui s'énerve devant la porte, la porte d'entrée. Mais c'est vraiment un style différent, là. qu'il va faire, et les internautes vont commencer à se poser des questions sur même son état mental.
Okay.
Mais dans une de ces vidéos-là, il y a des gens qui vont vraiment en extraire toutes les plans, puis ils vont trouver qu'il y a des espèces de formes étranges là, qui rappellent même le visage de David en surimpression sur son chat, donc qui réagit bizarrement, comme si vraiment le fantôme était tout près. Mm-hmm. Donc c'est, à un moment donné, on dirait même que, je sais pas si c'est moi qui ai halluciné ça, mais que c'est comme une main qui venait de sous la porte et qui attrapait son chat.
Ouais, ça, elle est un peu fréquente, la photo.
Oui, ça fait vraiment, vraiment peur. Ouais. Puis ça, encore une fois, c'est quand tu décomposes la vidéo, ça arrive à un moment particulier, là. Donc c'est bien, bien caché dans la vidéo. Mais c'est très inhabituel de voir ces changements-là, mais il semble encore avoir des manifestations dans l'appartement de Adam. Plusieurs théories là, vont émerger du web. Donc celle-ci dont je te fais part, mon cher Seb, qui stipule que Adam pourrait être lui-même possédé par David. Et ce serait pas son appartement. Donc étant donné que le fantôme le suit, même lorsqu'il déménage, même lorsqu'il s'en va en vacances dans le Montana, eh bien David est toujours derrière lui, pas très loin. Donc c'est comme si lui serait possédé d'un autre fantôme. Mais je sais pas si... je connais pas assez la littérature des fantômes, mais c'est assez curieux comme phénomène aussi.
Oui, ben il y a quand même, tu sais, techniquement, il a pas respecté les règles de David qui lui disait qu'il devait pas lui poser plus que 2 questions.
C'est vrai.
Sous menace de le tuer, là, il lui a posé 3 questions puis il ne l'a pas tué, mais peut-être qu'à la place, il a décidé de le hanter, le poursuivre.
Ça ferait du sens.
Ouais, exact.
Son dernier tweet, là, après cette série de vidéos étranges-là, c'est simplement « Everything is fine ». Mais c'est écrit « Everything is fine » vraiment en lettres minuscules, puis il y a 2 espaces entre le « is » et le « fine ».
Ouais.
Donc, c'est comme si ça avait été écrit rapidement, peut-être sur un téléphone portable. Mm-hmm. Au cours des mois suivants, Adam va être beaucoup moins loquace sur Twitter. Là. Il dit qu'il essaie de passer à autre chose, là, étant donné que l'histoire de Dear David lui a pris quand même beaucoup de temps. Il va annoncer d'ailleurs là, qu'il quitte son emploi à BuzzFeed, qu'il occupait depuis 4 ans, pour focusser sur ses projets personnels. Il dit vouloir passer à autre chose et vouloir, entre autres, là, se trouver un nouvel appartement. À ce moment-là, il a près d'1 million d'abonnés sur Twitter. Il a son fameux petit crochet bleu, là, verified. Là.
Chanceux.
C'est un peu ainsi, sur cette note mystérieuse et sans véritable conclusion, que se termine la saga Twitter de Dear David. Donc, du moins, ce qu'on sait jusqu'à présent. Donc, après cette série de tweets un peu énigmatiques, il annonce qu'il quitte son emploi, qu'il veut passer à autre chose, ben il a complètement arrêté de documenter ce qui se passait. Ça n'a jamais été clair. Il n'a jamais dit clairement « il n'y a plus de phénomènes paranormaux dans mon appartement ». Mais il a comme dit « ben moi, je vais m'en désintéresser ». Mais faut pas oublier qu'à ce moment-là, Adam était vraiment la cible de gens qui le trollaient beaucoup. Quand t'es rendu avec près d'un million d'abonnés, avec une histoire controversée, c'est pas toujours tout le monde, en fait, qui est d'accord avec toi. Puis il y en a qui peuvent te traiter de tous les noms juste pour, même s'il a tout inventé, tu sais, je veux dire, il mérite pas d'être intimidé puis être bouillé comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il a trouvé dur, Adam, même dans les derniers mois.
En fait, il a fini par nous donner des nouvelles.
Oh.
Le 6 juin 2018, Adam annonce qu'il a été approché pour une adaptation cinématographique pour son expérience paranormale.
Oh, OK.
Ouais. Et pas par n'importe qui, hein, par le producteur qui a produit It, le film Ça, là, de Stephen King, qui est excellent. Et il a embauché aussi un des scénaristes d'un des Conjuring pour écrire l'histoire.
Oui, c'est quand même des bons films d'horreur. Ça.
Oui, c'est bien entouré. BuzzFeed Studio, par hasard, son employeur, ex-employeur, s'est joint comme partenaire aussi, comme producteur, et même pour la distribution du film.
Quel hasard.
Hein? Et ça va être New Line, qu'on connaît pour très, très spécialisé en films d'horreur, là, Scream, etc. Donc, c'est eux qui vont distribuer le film. Ça va être un trailer d'horreur qui est inspiré de son histoire, là, à partir des tweets qui ont débuté en août 2017. Au départ, l'an dernier, quand ils ont annoncé le film, ils prévoyaient une sortie pour le 6 septembre 2019. Et actuellement, on est dépassé cette date-là et le film n'est toujours pas sorti. Mm-hmm. Il n'y a pas de nouvelle annonce. Là. J'ai cherché, il n'y a rien qui en parle vraiment en 2019 même. Donc, on ne sait pas trop à quel moment il va être sorti en salle. On va vous tenir au courant, mais pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a même pas de bande-annonce. J'aurais aimé ça au moins.
Non, c'est vrai.
Voir une bande-annonce, tu sais, un peu comme on a vu avec le film Slenderman, qui est une adaptation aussi. Là.
Mais on va bien voir. Ben, ça, c'est pas rare qu'il y ait des longs délais là, dans le cinéma.
Non, exact.
Il y a des films qui sont délayés de plusieurs années, même parfois. Là. Mais j'ai hâte de voir ça. Donc, est-ce qu'il y aurait eu un intérêt pécunier là, de la part d'Adam dans toute cette histoire-là? Hein? C'est une bonne question, sachant que juste 6 mois après toute cette histoire-là, il y a déjà quelque chose de confirmé avec un studio de cinéma. Là. C'est quand même assez hallucinant.
Oui, ça va vite. T'sais. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il a voulu capitaliser sur une histoire vraie, comme plein de monde font là, quand ils ont des histoires tragiques ou spéciales, ou que ça, finalement, toute cette mise en scène-là, soit que c'était orchestré pour attirer l'attention peut-être des studios de cinéma pour faire un film, ou tout simplement qu'il y a quelqu'un qui a vu, un producteur a vu une opportunité quand même, parce que c'est vrai que ça fait un bon film, là, on s'entend. Là.
Ben oui, c'est clair. Donc, c'est un peu les dernières nouvelles qu'on a de tout ça. Du côté des théories, c'est sûr que Adam, de son côté, lui, a toujours affirmé que ce qu'il a vécu est bel et bien réel.
Oui, c'est vrai.
Donc, hein? Il a toujours été, lorsqu'il était questionné par les médias, il disait toujours, non, moi, c'est vrai, c'est plate que vous y croyez pas, mais j'ai pas menti, tu sais, dans le sens qu'il y avait pas d'intérêt à mentir.
Non, exact.
Puis même, c'est ça, même s'il y a un intérêt pécunier, c'est dur à la base de l'imaginer, ça, parce que c'est dur à la base de d'imaginer quelque chose de viral comme ça. Parce qu'il y en a des tonnes de gens là, qui décrivent leur histoire de fantôme sur Reddit ou sur Twitter, mais on dirait que le sien a été tellement bien ficelé puis bien écrit, qu'il soit vrai ou non, qu'il y avait comme un peu tous les ingrédients d'une histoire virale ou même d'une creepypasta, finalement.
C'est un artiste, Adam, à la base. T'sais. Fait que oui. C'est sûr que... Moi, j'ai l'impression qu'il a fait ça au départ pour s'amuser, puis en voyant tout l'intérêt, au fil du temps, il a nourri son histoire. T'sais. Je pense que c'était pas nécessairement calculé, toute cette prémisse-là, mais t'sais, il a juste publié des photos, puis au fil du temps. Mais quand tu vois que ça marche, tu sais... que ça soit vrai ou non. Là, moi, j'ai quand même l'impression que c'est une histoire qu'il a inventée, mais c'est ça. Tu sais, je pense que pour lui, ça a été une belle surprise. Un peu comme tu dis, je pense pas que l'intention à la base était pécuniaire. Tu sais, je pense pas qu'il y avait un objectif de faire un film. Là. Je pense que c'est juste qu'il voulait s'amuser. Puis au final, ben, il a fait un film, mais tant mieux pour lui, là, tu sais, dans un sens. C'est bien, l'histoire est bonne. Ça va donner, je suis convaincu que si le film est bien fait, ça peut donner vraiment un bon film d'horreur. Là.
Mais toi, qui es très ouvert aux phénomènes paranormaux, je suis surpris de voir que tu trouves aussi rapidement que selon toi, c'est une supercherie. Mais à l'époque, est-ce que tu croyais que c'était réel à ce moment-là?
Quand l'histoire est arrivée, puis je la suivais sur Twitter, oui, on dirait que j'y croyais, là, puis j'aimais y croire, puis je suivais quand les chats, puis particulièrement là, les photos avec le Polaroid, ça me bluffait, là, qui filme, t'sais, je sais qu'on peut truquer ça, mais on dirait que j'y croyais, pour moi c'était comme une preuve que ça pouvait être vrai, mais durant notre, comme vous savez, on a fait un épisode aussi dans notre série documentaire sur le paranormal, et on a interviewé des gens, t'sais, des spécialistes, des experts de traitement de l'image, aussi des experts du paranormal, des physiciens et tout ça. Puis après leur avoir parlé, on dirait que là, je suis moins convaincu de ça. Là. Tu sais, même sur le travail des images, on les a fait un peu analyser. Ça semble être flou volontairement. Tu sais, souvent, d'ajouter du flou dans une image, c'est justement pour tromper l'œil puis y intégrer des éléments qui ont l'air intégrés pour vrai.
Oui, c'est ce qu'on s'est rendu compte. On est allé voir les gens là, de couleur.tv.
Oui.
Puis on leur a donné, parce que tout d'abord, on a demandé à Adam Ellis s'il voulait nous fournir ses photos originales, ce à quoi il a refusé. Mais je le comprends aussi, tu sais, il y a un projet de film, donc il n'y a pas intérêt à se faire débunker son histoire. Donc, à la base, ça regarde mal. Donc, on a fait analyser ce qu'on a pu trouver en meilleure qualité possible. mais c'est des photos qui ont été en plus compressées par Twitter, compressées par les différents sites web où il les a publiées. Mais eux, les gens à qui on a demandé semblent convaincus que les photos de David, là, du moins celles où il est sur son lit, puis qu'il est dans sa chambre, dans le coin de la pièce, ça a vraiment l'air d'une marionnette. Puis ça semble être vraiment le consensus sur Reddit aussi, puis même sur Twitter, quand on regarde les commentaires, ça a l'air vraiment d'une marionnette qui a été déposée là, tu sais, un genre de poupée, là, d'une certaine façon.
Oui, ça n'a pas tant l'air d'un humain. Oui. C'est sûr que, tu sais, c'est la théorie de... Ce que des fois me fait douter, c'est que l'enfant qui était retrouvé mort en 1921, il est mort d'une noyade, puis on dirait que c'est vrai que David a la face un peu boursouflée.
Ouais.
Des fois, on peut faire certains liens, mais c'est vrai que ça a l'air d'une poupée, tu sais, ou une genre de marionnette, ça, là-dessus... Mais bon, j'ai pas vu une tonne de vrais fantômes dans ma vie.
Puis non, c'est quand même assez étrange. Puis évidemment, les photos que Adam prend sont toujours de basse qualité. Tu sais, à un moment donné, si je suis surpris qu'il ait pas fait une investigation plus poussée. Tu sais, même si des fois les chasseurs de fantômes peuvent utiliser du matériel douteux qui est pas scientifiquement
reconnaissable.
Ben il y aurait quand même eu moyen de je sais pas d'essayer de mettre des caméras de meilleure qualité qui sont plus efficaces en basse lumière, d'essayer des choses comme ça là pour essayer de capter des preuves de meilleure qualité. Tu sais, quand ton histoire est rendue grosse comme ça, que t'as presque 1 million d'abonnés sur Twitter, tout ça, tu sais, il y a sûrement des gens là qui t'ont proposé de venir passer une nuit dans ton appartement, puis d'essayer des choses, tu sais, mais il a comme vraiment voulu utiliser juste ses moyens du bord. Tout a été fait avec des téléphones, tu sais, les enregistrements vocaux ont été faits avec son téléphone, photos ont été prises tout le temps avec son téléphone, et puis c'est toujours la nuit, donc les téléphones cellulaires en basse lumière, c'est généralement nul.
Exactement.
Donc, tu sais, je trouve que il a pas fourni, lui, les preuves nécessaires pour nous permettre de croire que c'est vrai. C'est comme tu disais, souvent, c'est en basse résolution. Puis lorsqu'on truque des photos, ben pour que tout se mélange bien, ben on a tendance à pixeliser les coins, tout ça, pour faire en sorte que les deux photos surimposées aient l'air d'être de la même qualité. Puis c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans ces photos à Adam.
Oui, il a comme pas mis l'effort, on dirait, pour rendre ça crédible.
Non, exact.
C'est d'une certaine manière. Puis je sais pas, là, quand ça allait vers le compte Instagram hanté, je sais pas, moi, rendu là, je trouvais que c'était too much, là, tu sais. Je suis convaincu que c'était l'application de glitch que les internautes ont trouvé.
Hein, oui, c'est ça. On dirait qu'à certains moments, il a été un peu pris la main dans le sac, là.
Oui. Ben, tu sais, des fois, je trouve qu'à vouloir trop étirer l'élastique, il pète dans la face.
Oui. Puis, mais ceci dit, moi, je trouve que c'est une super belle œuvre littéraire numérique, Daredevil. Mm-hmm. Je vous conseille d'aller la lire. Il y a un story file sur Twitter là, qui regroupe toutes les tweets en lien avec ça. Il y a différents sites web aussi qui répertorient tout ce qui s'est passé. C'est comme vraiment lire un conte d'horreur, là. Moi, j'ai vraiment apprécié le style littéraire de Daredevil, là, qui nous a gardé en haleine pendant des mois. C'était comme suivre une série télé ou un bon podcast, là.
Ah oui, c'était vraiment bon. J'ai aimé ça, là. T'sais, au moment, en fait, je critique pas l'œuvre. C'est juste de dire que c'est vrai, moi, c'est rendu là, là que
oui,
je suis plus critique. Hein.
Mais pour moi, c'est un peu, je vois ça un peu comme une creepypasta, on dirait, Daredevil. Ouais, parce que même les commentaires des gens, puis les gens qui ont tenté de débunker tout ça, ça fait partie de l'histoire. Tu sais, tu peux pas le dissocier d'une certaine façon.
Ah non, c'est vrai, je trouve que c'est la meilleure catégorie d'histoire qu'on pourrait lui attribuer, c'est une creepypasta.
Mais de là à dire que c'est vrai, parce qu'il y a eu plusieurs cas de charlatans là, chez les chasseurs de fantômes puis dans les émissions paranormales.
Oui, puis tu sais, on le sait, ils ont jamais bonne presse, hein, les chasseurs de fantômes. Tout le monde a un peu des doutes pour eux. C'est un cas québécois que je vais vous parler, mais les Québécois, vous allez vous en souvenir. Chantal Lacroix, autour de 2010-2011, elle avait fait une émission là, qui s'appelait « Rencontre paranormale ». Je sais pas si vous vous souvenez, là, dans les annonces, on voyait le médium avec une table là, qui donnait des coups et tout ça. Puis là, ça avait fait le tour des médias. Puis eux, ils disaient que c'était vrai, que c'était des témoins réels qui avaient aucun effet d'illusion ou d'effet spéciaux ou quoi que ce soit. Et finalement, il y a un certain Danny Plouffe. Et lui, Danny Plouffe, c'est le physicien qu'on est allé rencontrer dans notre épisode sur le paranormal pour qu'il nous explique un peu le fonctionnement des appareils, justement, que les chasseurs de fantômes utilisent. Puis leur, dans le fond, le lien entre la science, ou ce que ces appareils-là font, et les entités. Et justement, lui, c'est un très grand sceptique. Et il a porté plainte au Conseil canadien des normes de la télévision parce que c'est de la fraude. Tu peux pas démontrer ça, dire à la télé en disant que c'est vrai. Et il a gagné, hein. Le diffuseur et Chantal Lacroix ont dû s'excuser et envoyer une lettre aux médias disant que ce n'est que finalement que du divertissement, que ce n'est pas des cas réels. Mais là, on dirait qu'à partir de ce moment-là au Québec, tous les producteurs de télé ont peur de faire des épisodes de paranormal pour pas tomber dans cette fraude-là. On dirait que les gens sont très sceptiques puis ont peur d'aller vers là, là.
Ça a marqué l'imaginaire télévisuel québécois.
Oui, vraiment. Puis ça avait fait perdre beaucoup de crédibilité aussi à Chantal Lacroix. Là. Tu peux pas, des fois, faut pour le spectacle de faire à croire des choses aux gens, je trouve pas ça toujours très honnête. Aussi, aux États-Unis, bon, il y a la série Ghost Hunter là, qui roule depuis plus d'une dizaine, c'est pas 15 saisons, là. Puis eux aussi, là, sont énormément critiqués. Là. Il y a beaucoup de gens qui débunkent à peu près tous les épisodes. Tout ça est faux, de la mise en scène. Ils ont eu des témoignages, tout ça. Fait qu'on dirait que c'est tous les épisodes, toutes les séries comme ça de chasseurs de fantômes, ils sont tous critiqués. On dirait qu'il n'y en a pas une qui est vraiment endossée par les vrais parapsychologues, là, que eux, ou les vrais médiums, du moins ceux qui disent vraiment avoir des contacts réels avec des entités, eux, ils sont plus ou moins d'accord avec ces émissions-là parce que ça leur fait perdre énormément de crédibilité. Mm-hmm. Puis ils ont raison, là, d'une certaine manière. Fait qu'on voit que le phénomène des chasseurs de fantômes, c'est assez dur à y croire, malgré tout. Puis même M. Danny Plouffe, le physicien, nous expliquait que si à un moment donné, il y avait un appareil qui était capable de détecter de cette manière-là, avec des champs électromagnétiques, une autre sorte d'entité, ça révolutionnerait la physique mondiale. Puis il dit ça actuellement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de découverte. Fait qu'on n'est pas capable de détecter les entités. Comme il dit, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là, les entités, mais on n'a pas les outils actuellement scientifiques qui permettent de le faire, un peu comme tous les chasseurs de fantômes, du moins tentent de nous le faire croire.
Oui, exactement. Je pense que, mon cher Seb, on a fait le tour de l'histoire de Dear David. Ça fait longtemps qu'on voulait en parler. On a laissé un peu le temps aux choses de se passer, histoire d'avoir les updates les plus à jour. Mais il n'y en a pas eu beaucoup dans les derniers mois, finalement.
Non, ça faisait longtemps qu'on avait envie d'en parler. Puis justement, on a peu d'occasions d'avoir des histoires de paranormal. On aime ça. Puis justement, elle s'y prêtait vraiment bien. Là.
Exactement. Donc, c'était bien agréable. Oui. On vous remercie, chers distordus, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cet épisode. Oui. Merci de nous encourager en achetant notre livre « Distorsion, 13 histoires étranges de l'ère numérique aux éditions de l'Homme ». Aussi, notre série télé sur Moi et compagnie, c'est les mercredis à 20h30 et il y a plein de rediffusions aussi que vous pouvez regarder. Oui. Et merci de vos tournées de bière, de vos shout-outs 5 étoiles. Pour nous, ça fait chaud au cœur. Vous savez où nous trouver sur Instagram, sur Facebook. Vous savez qu'on a un groupe de discussion privé aussi sur Facebook si vous voulez discuter avec d'autres distordus et échanger sur des histoires étranges, c'est là que ça se passe.
Oui.
Et merci aussi de nous encourager via la boutique de Distorsion au boutique.distorsionpodcast.com. On a ajouté des casquettes cet été qui sont vraiment cool, sont bien appréciées. Jusqu'à date, on a des bons commentaires. Donc, c'est toutes des façons de nous encourager pour qu'on fasse plus de contenu.
Et avoir du swag. Mon cher Émile, as-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
Si vous entendez « Oui, monsieur » dans votre sommeil, ce n'est probablement pas un fantôme, mais bien votre podcast qui est resté en marche.